Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 16h sur RTL.
Salut à tous. J'étais un peu en train de rater le début de l'émission.
Ah oui.
Non, non, c'est pas l'heure de la
sieste.
C'est pas l'heure de la
sieste. Vous voulez que je commence? On fait
absolument
une fois sur deux,
pas.
Thomas.
En
on s'était dit ça au début de l'été.
Bienvenue.
Mais c'est pas vrai celui-là.
Bienvenue dans la curiosité sur RTL. On est ensemble jusqu'à 16h pour les meilleurs moments de l'émission. Ça va, Sidonie?
Mais oui, puis on a un super programme. On a sélectionné comme ça dans nos archives les bons moments, les moments rigolos, les bonnes anecdotes, les bonnes histoires à vous raconter tout l'été.
Vous avez raison d'employer l'adjectif bonne parce qu'on va déguster des glaces. Qu'est-ce que vous préférez? Des fruits pilés à la neige, comme Néron, ou alors de la glace à l'artichaut, comme au XVIIe siècle? On va vous raconter 2000 ans de glace, de celle qui était récoltée sur les pentes de l'Etna, à la pêche Melba de l'hôtel Savoy de Londres.
Ce sera une petite pistache pour moi, si vous m'en servez une. Et tout de suite, leur nom est synonyme de sacrifice. On vous raconte l'histoire des kamikazes.
En 1945, a lieu pendant deux mois une série d'attaques suicides d'une intensité sans précédent dans l'histoire.
RTL.
Une stratégie qui contraint des escadrilles entières de pilotes à s'envoler vers leur propre mort. Comment a-t-on pu convaincre une génération d'hommes à sacrifier leur vie?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Peut-être les avez-vous vues, ces images incroyables d'avions japonais qui foncent et s'écrase sur des navires de guerre américains. Nous sommes en octobre 1944, l'armée japonaise est en pleine déroute. Elle décide d'utiliser cette arme humaine, les kamikazes. Plus de 3800 pilotes se sont sacrifiés pour ralentir les Américains dans le Pacifique. La propagande japonaise en a fait des héros volontaires, mais l'était-il vraiment? Pierre-François Souris, vous êtes historien et spécialiste du Japon. Comment le Japon a-t-il eu cette idée de mettre au point cette arme, ces bombes humaines?
C'est une idée qui leur est venue petit à petit au cours des combats. Ils se sont aperçus que certains pilotes désespérés choisissaient de se jeter sur un navire ennemi. Les Japonais n'étaient pas le seul à le faire. On a eu des exemples au cours des combats de la Seconde Guerre mondiale où des pilotes se sont jetés sur leur cible, sachant que leur appareil était détruit.
Des pilotes allemands ou américains
allemands, ou français même. Ah oui. Il semble qu'il y ait des cas quelques cas en France en 1940 et américains. Les pilotes eux-mêmes, se sentant perdus, sentant leur appareil détruit ou en voie de destruction, se jetaient sur l'ennemi dans un acte de courage final en quelque sorte. Il y a eu quelques cas comme ça. Et surtout, les Japonais avaient commencé à imaginer une stratégie épouvantable qui consistait à opérer des charges, ce qu'ils appelaient en japonais, par choc corporel contre l'ennemi. C'est-à-dire, ils demandaient à leurs soldats de se jeter sur l'ennemi.
Mais se jeter physiquement, sans avion, c'est ça, du corps
oui,
à corps?
Physiquement, à la baïonnette ou avec simplement le fusil dans la main. Et on a eu ainsi, à partir de 1943-44, pas mal d'exemples de ces charges à la mort, ce que les Américains appelaient ça des banzai charges.
Et cette idée de remplir des avions de chasse d'explosifs et de les jeter sur les navires américains?
Alors c'est une idée qui apparaît en fait dans la tête du vice-amiral Onishi, qui est à l'origine de cela. C'est-à-dire qu'il se retrouve lors de la bataille de Leyte, qui est la bataille des Philippines, qui est en fait la grande bataille finale de la guerre du Pacifique. Si les Japonais avaient réussi à empêcher les Américains de débarquer aux Philippines, alors peut-être la guerre aurait pu connaître un autre sort, ou en tout cas les Japonais auraient pu peut-être négocier avec les Américains une paix de compromis. Or, ils n'ont pratiquement plus d'avions et la bataille finale, ils savent qu'elle va être perdue. D'où cette idée un peu folle de lancer des appareils chargés d'une bombe, donc de 250 kilos, sur les bateaux américains pour les détruire. Et très rapidement, le modèle économique du kamikaze est un modèle totalement aberrant, oui. Puisqu'à la fin, ils n'ont plus d'avions, ils n'ont plus de pilotes. Donc on se retrouve dans une situation totalement folle. Mais au début, encore une fois, il s'agissait d'un acte ponctuel. Le problème, c'est que lorsqu'il y a la première opération de kamikaze, donc le 25 octobre 1944, l'un des appareils de l'escadrille, d'une des escadrilles qui est lancée à ce moment-là, percute un porte-avions et touche la soute aux munitions et donc fait exploser le porte-avions. Et les rapports des Japonais sont extrêmement dithyrambiques. Ils disent comment, avec un seul avion, on a cassé un porte-avions, donc c'est une stratégie payante, donc il faut continuer. Le problème, c'est qu'ils ne réussiront plus jamais à toucher un porte-avions, ou du moins à le détruire avec un seul avion, de cette manière. Donc c'est une stratégie totalement folle quand on réfléchit.
Pierre-François Souéry, les pilotes de ces forces d'attaque spéciale devront mourir comme des fleurs du cerisier. C'est la métaphore qui est utilisée à l'époque par l'état-major ?
Oui, mais il faut bien comprendre que la propagande militaire japonaise est fondée sur un rapport particulier à l'histoire, à la mythologie, à la littérature classique du Japon. La fleur de cerisier est depuis des temps très anciens, mais en particulier depuis la mise en place de l'État-nation à la fin du 19e siècle, le symbole de la jeunesse, c'est le symbole de la beauté. Et c'est une beauté particulière parce qu'à peine est-on arrivé au sommet de cette beauté que cette beauté s'étiole, puisque, comme vous le savez sans doute, les pétales se dispersent.
On racontera bien sûr comment sont choisis ces kamikazes et s'ils sont choisis ou s'ils sont volontaires. C'est une manière de convaincre les jeunes de s'engager, ça, de mourir. On va mourir joliment comme une fleur de cerisier.
C'est-à-dire que toute la propagande militaire explique aux soldats, pas seulement aux pilotes, que mieux vaut mourir que de se rendre. Et que, de fait, surtout à partir de 1944, les pertes dans l'armée japonaise sont telles que la plupart des soldats ou des pilotes savent que leur chance de survivre au combat est extrêmement minime. Donc, d'une certaine façon, on leur dit, puisque de toute façon tu vas mourir, autant mourir en beauté, en quelque sorte. Mmh. Et donc, toute la propagande les pousse, en quelque sorte, à se suicider de façon spectaculaire. Essentiellement, à vrai dire, pour terroriser les Américains.
Oui, c'est une arme psychologique.
C'est une arme psychologique.
Ouais. Pierre-François Souéry, ça veut dire quoi, kamikaze ?
Alors, kamikaze, ça veut dire, c'est donc un mot d'origine japonaise, évidemment, qui signifie vent divin, vent de Dieu, le vent des dieux, qui est une référence, en fait, au vent divin que soulèvent les divinités, notamment la divinité d'Issé, qui est l'ancêtre de la dynastie impériale. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le mot de kamikaze n'est pratiquement pas utilisé au Japon. À chaque fois que je dis, par exemple, je vais au Japon et je dis, j'étais en train d'écrire un livre sur les kamikazes, tous les Japonais m'ont repris en disant, les tokotai, c'est-à-dire
tokotai,
les sections spéciales d'assaut, en quelque sorte, les unités spéciales d'assaut.
Alors, vous allez continuer de nous raconter l'histoire de ces tokotai, unités spéciales d'assaut, notamment ces pilotes. Mais on est tous persuadés qu'ils étaient volontaires. Peut-être que c'est plus compliqué que ça.
C'est jusqu'à 16h sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle arme de guerre était inventée. Les kamikazes, ou tokotai, comme on dit au Japon, ces pilotes japonais qui s'écrasent avec leur avion chargé d'explosifs sur les navires américains dans le Pacifique. Pierre-François Souéry, vous êtes historien et vous avez voulu savoir qui étaient ces kamikazes, qui étaient-ils vraiment ? Ce sont des soldats fanatiques ?
C'est ce que la propagande américaine a essayé de montrer. Les Américains ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ces avions qui fonçaient sur les bateaux américains et qui s'écrasaient au sol sans même tirer des balles.
C'était impensable.
Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne lançaient même pas des mitrailleuses sur les avions, mais il n'y avait pas de mitrailleuses sur ces avions. Leur objectif était de taper, ouais, de taper le navire.
Une bombe ou des explosifs.
Alors,
à l'intérieur,
chaque zéro, puisque c'est le nom de ces avions, chaque zéro emportait une bombe de 250 kilos. Ouais. Et donc leur mission était de taper donc la coque donc du navire américain.
Est-ce que ce sont donc des... Pardon Sidonie, on a souvent la même question au même moment, des volontaires.
Alors ça, c'est une question donc très difficile. La propagande japonaise les montre comme telles. Pour eux, c'est important. Il n'y a aucun ordre officiel de l'état-major disant « vous allez faire partie des kamikazes ». Il n'y a aucun ordre signé, ni même de l'empereur, disant voilà, on a organisé des escadrilles particulières dont
c'est-à-dire
l'objectif.
Qu'on n'a pas retrouvé de documents avec des ordres officiels.
Il n'y a aucun document.
Ou à l'époque même, on ne donnait pas un ordre officiellement.
Les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de documents, on a très peu de documents en fait. C'est un des problèmes de faire l'histoire de cette affaire. Mais en même temps, il faisait en sorte de laisser croire que les gens étaient volontaires. Dans la réalité, bien entendu, c'est tout à fait compliqué parce que aucun kamikaze ou aucun pilote n'a été convoqué individuellement devant un officier qui lui aurait dit « alors tu as le choix, vraiment, tu peux, tu ne peux pas ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait, de façon collective. Donc toute l'escadrille était réunie.
Pardon Pierre-François Souéry, c'était des as de l'aviation ?
Alors au début, ce sont effectivement d'excellents pilotes parce que ce n'est pas si simple que ça de percuter un avion comme ça en plongée. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que, évidemment, le taux d'attrition étant de 100% par définition, ils n'avaient plus de pilotes. Donc, ils ont gardé les meilleurs pilotes pour accompagner les kamikazes, en réalité. Et au fur et à mesure que que la guerre continue, donc à l'hiver, le printemps 45 et même le début de l'été 45, pratiquement les pilotes n'ont plus aucune formation sérieuse. En gros, pour former un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Japonais comptent à peu près 600 heures d'entraînement. Là, on est réduit à 48 heures.
Et dans votre...
Pour vous donner 72 heures dans le meilleur des cas.
Et dans votre livre Kamikaze, publié chez Flammarion, la collection Fil de l'Histoire, on voit d'ailleurs une photo de ces apprentis pilotes qui apprennent pas sur un avion, quoi. Ils apprennent au sol dans une espèce... C'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? C'est une espèce de petite caisse
De caisse avec des bâtons qui ressemblent vaguement à un manche à balai.
Qu'est-ce qu'ils apprennent à décoller ?
Alors, ils apprennent à voler en formation. On ne leur apprend pas la navigation, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans les nuages.
C'est absurde.
Et on ne leur apprend plus à atterrir, puisque ça ne sert à rien. Il y a quelques cas de pilotes, au début en tout cas, qui se sont rendus compte que leur avion ne marchait pas bien, qui risquaient d'avoir une panne, ou qu'il y avait une fuite d'essence ou quelque chose, et qui ont fait demi-tour. Et qui ont donc, ils sont revenus sur la base en disant, ben voilà, ça ne marche pas. Ils se font en général littéralement tabasser par leurs officiers. Et une fois qu'ils ont récupéré, ils repartent en mission immédiatement. Ils se font traiter de lâches devant leurs camarades, de dégonflés, etc. Donc il y a quand même une pression qui est terrible contre eux, une pression à la fois des officiers et une pression du groupe lui-même. Certains, à la fin, donc, quand on leur dit que ben, voilà, la guerre est terminée, qu'ils partiront jamais, on pourrait penser qu'ils ont poussé un ouf de soulagement, mais certains craquent, pleurent en disant « Comment ? Mes copains sont partis, ils sont morts. » Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ?
Donc, c'est comme un lavage de cerveau, en quelque sorte, vous diriez ça ?
Oui, alors ça ressemble un peu à ça. Il faut dire que... alors, le problème, c'est que ces kamikazes ont laissé beaucoup de textes. D'abord parce qu'ils avaient le temps, puisqu'ils étaient sur des bases aériennes, des aérodromes, et puis on leur disait, ben voilà, tu partiras, on ne sait pas quand, mais tu vas partir. Donc ils avaient le temps, en quelque sorte, de rédiger. Et très vite, la propagande japonaise s'est rendue compte que ces textes, on pouvait les utiliser. Et par ailleurs, et ça c'est terrible aussi, dans la deuxième partie de cette histoire, c'est-à-dire à partir du printemps 45, on recrute comme pilote des forces spéciales, donc kamikaze, on recrute essentiellement des étudiants, qui sont les étudiants de lettres et de droit. Ben, les étudiants scientifiques ou les étudiants en médecine, on pense qu'on va en avoir besoin. Les étudiants en lettres ou en droit, on peut les sacrifier.
C'est horrible, ils ont plus de valeur, les scientifiques
oui,
et les médecins.
Oui, mais ce n'était pas tout à fait idiot, parce que ces gens, par définition, savaient écrire. Et donc, ils se sont rendus compte que les lettres qu'ils écrivaient étaient de grande qualité, parfois de grande qualité littéraire.
Et qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ces lettres, Pierre-François Souris ?
Il y avait des sortes de modèles, ils écrivaient tous souvent à peu près la même chose, hein, c'est des modèles qu'on leur donnait. Mais certains...
C'était des lettres d'adieu
Des lettres d'adieu à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur mère souvent. Beaucoup de lettres à des femmes, mères ou sœurs. Hein. Parfois petites amies, mais ils étaient tellement jeunes que certains n'en avaient pas encore. Hein. Et ce sont des lettres assez poignantes parce qu'elles parlent de leurs sentiments personnels. Et puis alors certains... ont réussi à faire passer des lettres qui, elles, sont totalement hors censure. Alors, ils ont utilisé des subterfuges divers pour faire sortir les lettres. Et certaines de ces lettres sont tout à fait étonnantes. Certains pilotes expliquent très clairement que... Il y en a un qui dit carrément je hais la marine impériale, je hais mes officiers, je hais cette armée, je ne meurs pas pour eux, je meurs pour mon pays, je meurs pour ma famille, mais je ne meurs pas pour eux. Et il y en a un qui dit, et lorsque je serai dans l'avion et que je me jetterai sur le bâtiment américain, je crierai « mort à l'armée ». Donc vous voyez, c'est pas du tout des gens, enfin pour certains en tout cas, c'est pas du tout des gens qu'on peut qualifier de fanatiques. Il y en a un qui utilise un vocabulaire qui est tel qu'on peut penser qu'il a été influencé par la rhétorique communiste. Et qu'il est en fait, pas communiste, mais il est proche de ces idées-là. Il dit « moi je meurs pour un Japon libre et indépendant et démocratique ».
Les kamikazes, l'arme du désespoir inventée en pleine déroute des Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va découvrir que cette idée du sacrifice n'est pas apparue du jour au lendemain.
C'est l'été dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Il n'y a rien de plus terrible que de voir fondre sur soi un pilote qui ne s'arrêtera pas.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était une guerre d'usure au moindre coût.
RTL.
Et sans respect de la vie humaine. La stratégie kamikaze est très démoralisante et très efficace.
Pour moi, c'était des animaux. pour être capable de faire ça.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes en automne 44, le Japon en guerre contre l'ennemi américain lance ses premières missions suicides dans le Pacifique. En tout, 3800 hommes s'écraseront avec leurs avions chargés d'explosifs, d'une bombe de 250 kg sur des navires américains. Pierre-François Souiri, vous nous racontez, vous incarnez l'histoire de ces hommes dans un livre Kamikaze publié chez Flammarion. Justement, on va raconter l'histoire du premier Kamikaze, cette première attaque, 25 octobre 44. Par qui est-elle menée ?
Cette histoire est racontée dans le livre. Je précise quand même que ce livre a été écrit aussi avec Constance Serini, qui en l'occurrence est la responsable des lignes que je cite là maintenant, c'est-à-dire l'histoire de Seki Yukio, qui est le premier kamikaze. Alors, c'est un as de l'aviation, c'est un très bon pilote. Il est donc sur une base aux Philippines. Et Onishi, donc, qui est vice-amiral, vient expliquer avec les officiers, vient expliquer aux soldats qu'ils vont donc désormais utiliser cette tactique. Et là, il y a trois récits qui nous racontent cette affaire. Il n'y a aucune source, hein. Il n'y a que des témoignages postérieurs. Le premier récit, celui fait par un officier qui était sur place, raconte une belle histoire. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous allez être le premier. Le gars répond, c'est qui Yukio, donc répond, c'est un honneur. Tous les autres soldats, les autres pilotes avec lui disent, bien sûr, on y va avec toi. Et voilà. Et donc, c'est formidable, ces gens sont volontaires, et ils se battent pour le Japon et ils partent en quelque sorte la fleur au fusil.
Ça sent bon la propagande, ça.
Ça sent bon la propagande, mais c'est un texte quand même qui a été rédigé en 1954 ou 55. C'est un témoignage a posteriori, hein. Puis il y a une deuxième explication, il y a un autre texte qui dit qu'en fait, quand on lui dit qu'il est choisi donc, pour être le premier, Seki Yukio n'a pas l'air très convaincu. On le serait à moins. Oui. Et il dit Mais laissez-moi quand même la nuit pour réfléchir. Et le lendemain, il finit, après avoir réfléchi, par accepter. Et d'autres pilotes lui disent alors, si tu y vas, j'y vais avec toi. Donc là, on retrouve la camaraderie, l'esprit de corps, etc. Puis il y a une troisième version qui est très intéressante parce qu'elle est faite par un journaliste de la propagande japonaise qui est sur place à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard si un journaliste sur la base à ce moment-là, puisque, évidemment, on l'a fait venir. Et il essaie de coincer littéralement Seki Yukio le jour d'après pour lui dire, pour essayer de l'interviewer. Et Seki Yukio le renvoie, le rembarre, extrêmement agacé. Puis finalement, il accepte de lui parler. Et il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, tu sais, monsieur le journaliste, si le Japon en arrive à faire tuer comme ça ses meilleurs pilotes, alors il est foutu.
Vous pensez que la vérité se situe où, Pierre-François Souiri ?
Il dit, je ne fais pas ça pour l'empereur, je fais ça pour ma femme, parce que j'ai peur qu'elle soit violée par les Amerlocs. Et de toute façon, je n'ai pas le choix, ce sont les ordres.
Comment va se passer cette première mission, octobre 1944 ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ils réussissent à repérer une escadre américaine. Et de toute la guerre, ce sera le résultat militaire le plus spectaculaire. Et c'est de cela que vient en quelque sorte le paradoxe et un peu la contradiction.
Ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont réussi à couler un porte-avions, c'est ça ?
Ils ont réussi à couler un porte-avions, en endommager d'autres et d'autres navires. Donc finalement, les Japonais ont l'impression que c'est une tactique qui est formidable, qui réussit. Mais le problème, c'est que vous avez dit tout à l'heure, je m'en excuse, vous avez dit 3800 kamikazes qui sont morts en percutant les bateaux américains. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, il y en a pas eu 3000, il y en a 3800 qui sont morts, mais sur les 3800, il y en a eu très peu qui ont percuté des bateaux américains.
Oui, oui.
La plupart
se sont loupés,
la plupart ont été descendus par le DCA américaine. Certains se sont perdus en mer, ils savaient pas naviguer. Les résultats sont très maigres. Au début, on est à peu près 20-25% d'avions qui percutent des bâtiments américains. À la fin, on est à moins de 8%. Vous vous rendez compte ? 8%, c'est rien. Si vous voulez, bien sûr, c'est une guerre nationaliste et impérialiste que mènent les Japonais. Mais à partir de 1943-1944, les Japonais ont aussi le sentiment que les Américains veulent détruire. L'objectif des Américains clairement affirmé, c'est on va prendre Tokyo. Donc à partir du moment où les Américains disent on va prendre Tokyo, il y a un réflexe assez naturel, c'est on défend la patrie. Donc on défend peut-être l'empereur, mais on défend aussi la patrie. Et il y a un double sentiment à ce moment-là, ce qui explique d'une certaine façon la résistance japonaise.
Pierre-François Souiri, pour votre livre Kamikaze publié chez Flammarion, vous avez rencontré certains de ces kamikazes qui ont survécu ou qui n'ont pas été envoyés en mission au dernier moment ?
Alors non, je n'ai pas rencontré de kamikazes. Ils sont les quelques survivants qui restent sont extrêmement vieux maintenant. Mais par contre, on a leurs témoignages. témoignages, soit leurs témoignages radio ou télévisés, soit et surtout les textes qu'ils ont écrits, que nous avons lus. Certains sont traduits en anglais ou en français, pas beaucoup, mais quelques-uns. Mais il y en a beaucoup qui existent en japonais. Et puis nous avons bien sûr utilisé essentiellement ces fameuses lettres dont je parlais tout à l'heure, les lettres des kamikazes eux-mêmes, qui montrent qu'il y avait une diversité très grande de ces personnes.
Il y en a une très jolie d'ailleurs d'un jeune pilote, c'est Otsuka Akio. Il va faire son ultime mission, elle se déroule le 28 avril 1945. Est-ce que vous pouvez nous lire le début de sa lettre, Pierre-François Souris ?
Je me suis levé à 6 heures ce matin pour respirer l'air pur de la montagne. Et tout ce que je ferai aujourd'hui le sera pour la dernière fois. Ce ne sont pas des fanatiques, c'est ça qui ressort de ces textes. Et ce sont des gens broyés par un système, des gens qui n'ont guère le choix.
Quelle image ils ont aujourd'hui dans la société japonaise d'aujourd'hui ?
Alors ça c'est tout à fait intéressant, parce que la société japonaise, comme n'importe quelle société d'ailleurs, est fractionnée en divers types de discours idéologiques. Il y a bien sûr les nationalistes qui considèrent que ces gens étaient des héros. Bon, et puis il y a tout un certain nombre de milieux, notamment parmi les intellectuels, qui sont beaucoup plus critiques. Ils n'avaient aucun choix. Moi, je dis à un moment dans le texte, ils sont dans les couloirs de la mort.
Kamikaze aux éditions Flammarion. Merci infiniment.
Merci beaucoup,
Pierre-François.
C'était passionnant.
Vous aimez les glaces ? Vous êtes au bon endroit sur RTL. Voici leur histoire. Tout de suite, c'est les meilleurs moments de la curiosité. C'est la curiosité de l'été.
Bel été, les curieux, sur RTL.
Vous écoutez RTL.